VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 5 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Inquiétude croissante en Libye où des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, sont aux portes de Tripoli, la capitale.
En Algérie, les contestataires dans la rue pour un 7e vendredi consécutif, malgré la démission du président Abdelaziz Bouteflika.
Au Mali, marche hier des jeunes des localités de Bandiagara, Bankass et Koro pour réclamer la sécurité en pays Dogon après le récent massacre d'Ogossagou.
En visite à Washington, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé hier l'aide des États-Unis pour sortir son vaste pays d'une crise permanente.
Le président américain Donald Trump a fait montre d'un grand optimisme face à un accord commercial, quant à un accord commercial avec la Chine, en recevant hier à la Maison-Blanche le vice-premier ministre chinois, Liu He.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Un convoi armé de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, se trouve à proximité de la capitale, Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale, le GNA, suscitant de fortes craintes d'un embrasement militaire dans ce pays divisé. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la situation, ont indiqué des diplomates. Hier, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Émirats arabes unis avaient pourtant appelé toutes les parties à faire baisser immédiatement les tensions dans le pays. Claire Morin-Gibourg.
Le communiqué diffusé par le département d'État américain est très clair. Les gesticulations militaires et les menaces d'action unilatérale risquent seulement de replonger la Libye dans le chaos. Les gouvernements français, anglais, américain, italien et émirati affirment toujours dans ce communiqué qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Ils s'opposent à toute action militaire et tiendront pour responsable toute faction libyenne qui attisera le conflit civil, tout en réaffirmant leur soutien à l'ONU pour résoudre la crise. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné hier à ses forces d'avancer en direction de la capitale Tripoli, siège du GNA, le gouvernement d'Union nationale.
En Algérie, malgré le départ du président Abdelaziz Bouteflika, les appels à ce que les manifestants appellent « vendredi » se poursuivent avec un nouveau mot d'ordre, chasser les 3B. Abdelkadir Ben Salah, chargé de remplacer M. Bouteflika pour 3 mois, le temps d'organiser une présidentielle, Tayeb Belaïz, président du Conseil constitutionnel chargé de contrôler la régularité du scrutin, et le premier ministre Noureddine Bédoui, trois hommes clés de l'appareil mis en place par Bouteflika et à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim.
Au Mali, les jeunes des localités de Bandiagara, Bankass et Koro ont marché hier. Ils étaient, selon les organisateurs, des centaines à manifester pour demander la sécurité pour les populations et leurs biens en pays Dogon. Cette manifestation fait suite au massacre d'Ogossagou et aux récentes attaques dans leurs différentes localités. Compte rendu de Kassim Traoré.
Rappeler à l'État sa responsabilité exclusive par rapport à la sécurisation du pays Dogon, non à l'insécurité, oui à la protection de tous, telles sont entre autres raisons de ces marches selon Adama Dionko, porte-parole du collectif des associations du pays Dogon. À Bandiagara, il y a eu 1000 personnes avec une ville morte. Des commerces, l'administration, tout était fermé. Koro a arrêté la participation des 200 jeunes, la ville était totalement paralysée. À Bankass, toutes les communes était représentée et la ville était aux arrêts, ajoute Adama Dionko. Ce 4 avril 2019, les jeunes du pays Dogon sont sortis massivement et de façon synchronisée afin de crier haut et fort leur ras-le-bol contre l'insécurité, les violences, les amalgames ainsi que les stigmatisations qui sont devenues depuis 2012 leur quotidien. Avant ces marches, l'intervention des hélicoptères d'attaque des forces armées et de sécurité après le coucher du soleil a permis de mettre un terme à une attaque lancée par les hommes armés non identifiés contre les villages de Tegrou, Ogossagou, Kobadjé, tous dans le pays Dogon, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et d'autres cadres ont été exclus temporairement du PDCI, ancien allié de la formation au pouvoir et passé dans l'opposition. Abdourahmane Dia.
La mesure de suspension des 6 cadres du PDCI a été annoncée par Jean-Chrysostome Blessy, rapporteur général du Conseil de discipline qui s'est tenu hier à Abidjan. Il a néanmoins précisé que le Conseil de discipline n'a pas compétence pour prononcer une exclusion définitive. Seul le Congrès du PDCI-RDA peut le faire. Kablan Duncan est officiellement membre du PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié, mais il est surtout très proche du président ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a nommé vice-président à la création de ce poste en 2017. Il avait été son premier ministre de 2012 à 2017. Patrick Hachi, un des cadres suspendus, est aussi un proche du président Ouattara. Il occupe actuellement le poste de secrétaire général de la présidence. Anciens alliés, M. Ouattara et M. Bédié sont à couteau tiré depuis que ce dernier a claqué la porte de l'ancienne coalition présidentielle, refusant de fondre le PDCI dans le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui s'est transformé en parti politique en janvier. Les cadres du PDCI qui sont restés au gouvernement ou qui soutiennent le président Ouattara ont créé une branche au sein du PDCI baptisée PDCI Renaissance.
En visite à Washington, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé hier l'aide des États-Unis pour sortir son vaste pays de la crise permanente qu'il traverse depuis des décennies. Estimant avoir hérité d'un pays au bord du gouffre lorsqu'il a remporté la présidentielle de fin 2018 face au candidat de son prédécesseur, Joseph Kabila, l'ancien opposant a assuré que son élection avait permis l'avènement d'un équilibre qui est à encourager.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, toujours, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, le démocrate Jerry Nadler, demande au ministre de la Justice William Barr de publier tous les résumés préparés par l'équipe du procureur spécial Robert Mueller sur son rapport au sujet de l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Selon des informations parues dans la presse, l'équipe de M. Mueller n'est pas contente du propre résumé de M. Barr. Selon elle, ce texte ne montre pas que les résultats de l'enquête sont plus préoccupants pour le président Donald Trump que ne l'a laissé transparaître M. Barr. Ce dernier a promis une version expurgée du rapport de M. Mueller, mais le député Nadler exige, lui, la remise de ce rapport dans son intégralité.
Le président Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He confirment que des progrès importants ont été faits dans les négociations avec la Chine, mais qu'il n'y a pas encore d'accord commercial entre les deux principales économies du monde. Nous sommes très proches de signer un accord dans les 4 prochaines semaines, peut-être avant, peut-être bien après, a estimé hier à Washington M. Trump, qui recevait dans le bureau ovale M. Liu, qui dirige la délégation de négociateurs chinois. S'il y a accord, il y aura un sommet avec son homologue Xi Jinping, a dit encore le président américain.
Le compte-rendu d'une rencontre entre les ministres américains et turcs des Affaires étrangères a donné lieu hier à un bras de fer entre leurs deux pays alliés, la Turquie accusant les États-Unis d'avoir travesti la réalité des échanges, tandis que Washington persiste et signe. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Ankara a mis en cause le communiqué publié dans la foulée par le département d'État américain. Il a été clairement préparé avant la rencontre et non seulement il ne reflète pas le contenu de l'entretien, mais il contient également des sujets qui n'ont même pas été abordés, a protesté le porte-parole de la diplomatie turque Ami Aksoy dans un communiqué. Notre alliance exige que de tels documents soient préparés avec beaucoup de soin, insiste-t-il. Réponse du secrétaire d'État américain. J'ai relu le compte-rendu et je maintiens chaque mot, a souligné Mike Pompeo. Selon le communiqué américain, le secrétaire d'État a mis en garde son homologue turc contre les conséquences potentiellement dévastatrices d'une action militaire turque unilatérale en Syrie. Ankara menace de lancer une offensive contre des milices kurdes syriennes qu'il considère comme terroristes, mais qui sont alliées de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Le département d'État indique aussi que Mike Pompeo a exprimé à son homologue turc son inquiétude concernant l'acquisition potentielle par la Turquie du système système de défense antimissile russe S-400. Les États-Unis redoutent que cela ne mette en danger les secrets technologiques de leur F-35, des avions de chasse ultra sophistiqués que Ankara souhaite aussi acheter. L'administration Trump a donc suspendu cette semaine la livraison au gouvernement turc d'équipements liés à ces avions. Mais Mevlut Cavusoglu a assuré à Washington que la Turquie ne reviendrait pas en arrière.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgan Guiriec.
L'État de Djibouti va devoir verser 385 millions de dollars d'indemnisation à l'exploitant portuaire Dubai Port World. Cette décision de la Cour d'arbitrage internationale de Londres a été prise suite à la décision de Djibouti de rompre unilatéralement le contrat d'exploitation du port de Doralé, exploité depuis 2006 par l'opérateur Dubai Yacht, qui a été expulsé manu militari le 22 février 2018. Le 7e sommet des pays africains producteurs de pétrole est en cours à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen a plaidé en faveur d'un changement de politique dans la gestion des ressources. Teodoro Biangema a exhorté les pays africains à adopter des politiques communes, notamment pour s'affranchir de la dépendance aux économies des pays développés. Les pays producteurs de pétrole du continent africain ont subi de plein fouet la chute des prix du baril en 2014. Si le cours de l'or noir est depuis remonté, il n'a toutefois pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Diminuer la corruption augmente les recettes fiscales. Telles sont les conclusions d'une nouvelle étude du Fonds monétaire international. Le FMI a calculé qu'un pays émergent maîtrisant la corruption dispose de recettes fiscales plus élevées de près de 3% du produit intérieur brut. L'une des conséquences de la corruption est l'allocation plus faible de budget à l'éducation et à la santé, notent les auteurs du rapport. Le FMI note aussi que le Rwanda a fait des progrès importants en la matière dans une période relativement courte grâce à des changements politiques majeurs.
Sport à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal, toujours premier en Afrique selon le classement FIFA.
Oui, le classement FIFA de ce mois confirme la première place du Sénégal dans la zone Afrique, devant la Tunisie deuxième et le Nigeria qui double le Maroc sur la troisième marche du podium continental. Le top 5 africain est complété par la République démocratique du Congo. Au niveau mondial, les premiers restent les mêmes. La Belgique est en tête, suivie par la France et le Brésil. L'Angleterre arrache la quatrième place à la Croatie qui se retrouve cinquième. L'Uruguay est sixième alors que le Portugal recule d'une place et est désormais septième.
Kalidou Koulibaly se sépare de son agent.
Oui, d'après le journal The Independent, le défenseur international sénégalais a décidé de stopper sa collaboration avec son agent Bruno Satin. Kalidou Koulibaly a décidé de confier sa carrière à son frère. Il est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens qui désirent le recruter, même si Naples ne l'entend pas de cette oreille. L'ancien joueur du FC Metz est évalué à plus de 100 millions d'euros par son club.
Le Séville FC n'est plus qu'à un point de la quatrième place du championnat d'Espagne.
Oui, cette quatrième place est synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les Sévillans s'y sont rapprochés grâce à leur victoire 2-0 devant Alavés hier lors de la 30e journée. Ils sont désormais sixième et comptent 46 points comme le cinquième Valence, vainqueur du Real Madrid 2-1 mercredi. Les deux clubs n'ont plus qu'une longueur de retard sur Getafe, 47 points. Quatrième, tenu en échec sur le terrain de l'Espagnol mardi 1-1.
Plus de 300 millions d'euros versés aux agents en Première Ligue.
Et oui, les clubs de Première Ligue ont dépensé 304 millions d'euros en commission d'agents lors des deux derniers mercato, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Liverpool se classe en tête avec 51 millions d'euros. Après les transferts d'Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho et Sheridan Shaqiri, suivent ensuite Chelsea, 31,5 millions d'euros, Manchester City, 28 millions d'euros et Manchester United, 24,5 millions d'euros. Au total, en incluant les équipes des divisions inférieures, le football anglais a dépensé 371 millions d'euros en commission d'agents. Du football, on passe au basket. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Deux résultats, Milwaukee et Philadelphie, 128 à 122, Sacramento et Cleveland, 117 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Rwanda compte parmi les survivants du génocide des orphelins qui se sont sacrifiés pour aider les autres. Pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs, ils ont dû apprendre, parfois 10 ans, à jouer le rôle de leurs parents tués. Idriss Fall, notre envoyé spécial à la commémoration à Kigali du 25e anniversaire du génocide au Rwanda, s'est rendu dans un village abritant 6 enfants chefs de ménage, devenus maintenant des adultes. Voici son reportage.
Le génocide rwandais a laissé bon nombre d'enfants orphelins de père et de mère. Ainsi, beaucoup d'enfants sont devenus chefs de ménage et sont maintenant aidés dans leurs tâches par l'association Maïcha Africa.
Je m'appelle Rugera Jean-Claude et je suis le coordinateur de l'association Maïcha Africa qui a été créée par la ministre de France Sonia Roland. Cette association, après le génocide, nous avons un groupe des enfants qu'on a aidés à refaire leur maison, qui sont les enfants chefs de ménage. Et ici à Kinyinya, nous avons 40 enfants. De l'autre côté, à peu près une trentaine à Kimirongo.
Emmanuel Nyonzima, à l'âge de 14 ans, devait déjà prendre en charge l'éducation de 5 frères et sœurs, tous orphelins.
J'ai perdu mes parents et j'étais l'aîné. Donc, j'ai pris la responsabilité d'être le chef de ménage, puisqu'il me restait 5 enfants, donc 5 de mes, de ma famille. C'était prévisible, j'étais l'aîné. Alors, c'est à moi qui devais apporter de l'éducation à ces enfants pour leur dire de rentrer tôt, pour leur dire d'aller à l'école, de faire les devoirs, pour la discipline. Tout ce que mon père pouvait faire ou ma mère pouvait faire revenait à moi. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont leur famille. Seul le dernier, il a un enfant mais il n'est pas encore marié.
Comment est-ce que vous avez fait pour les nourrir, les loger, les habiller?
Au départ, bien sûr, c'était un don du gouvernement. Pour les maisons, c'est le gouvernement qui construit ces maisons juste après le génocide, avant bien sûr que cette association ne vienne en aide.
Je m'appelle Marte Gatalay
Ndialo et j'étais le grand parce que les petits, l'un avait 6 ans, l'autre avait 7 ans. Donc j'étais le grand puisque j'avais 10 ans.
Comment est-ce que vous avez pu asseoir votre autorité à 10 ans sur des enfants qui ont 6 ans?
Il y avait un parent qui nous assistait et qui m'entraînait à devenir chef de ménage et qui me disait comment faire, comment traiter mes petits frères, et il m'a aidé beaucoup pour asseoir mon autorité. Mon projet, c'est de fonder mon foyer. Je veux me marier très bientôt.
Comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Nous étions ensemble, nous étions rassemblés dans une église. Ils nous ont trouvés là-bas et ils ont tué tout le monde. Ça, je me rappelle très bien.
Comment est-ce qu'il a survécu alors?
C'est la grâce de Dieu. Certains ont pu fuir. On les a tirés dessus. Beaucoup de balles. Certains sont tombés. D'autres ont été sauvés, dont moi.
Depuis Kigali, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, poursuit sa première visite officielle aux États-Unis. Après avoir rencontré mercredi le secrétaire d'État Mike Pompeo, il s'est entretenu hier avec des membres du Congrès et aussi avec le directeur adjoint de la CIA. Que traduit cette visite dans les relations entre Washington et Kinshasa? Eddie Isango a joint un des chargés de la communication du président Tshisekedi, Valérie Giscard-Kousséma.
Tout avait commencé avec le secrétaire à l'énergie, M. Rick Perry. Tout le potentiel de la République démocratique du Congo, les échanges ont porté essentiellement sur le projet Inga, dont on dit qu'il est le plus grand et qui peut alimenter une bonne partie du continent africain. La deuxième personnalité officielle à recevoir les chefs de l'État, c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. M. Nagy, au nom de l'administration américaine, a fait une très grande déclaration pour dire que 2019 est l'année de la République démocratique du Congo. Et il a justifié toutes les raisons de ce couronnement, tous les faits et gestes posés par les chefs de l'État depuis son avènement. Il a parlé de la lutte contre la corruption, de la liberté d'expression, de tous ces efforts qui sont entrepris, les relations diplomatiques, la normalisation avec le pays voisin, son élection à l'Union africaine comme deuxième vice-président. L'autre personnalité la plus importante, c'est aussi M. Pompeo qui est le chef du département d'État. Et là également, les communiqués sortis du département d'État montrent qu'il y a une grande satisfaction pour les États-Unis par rapport à tout ce qui a été fait par le chef de l'État depuis son avènement. Il a été avec les sénateurs Nofi, tout le monde le sait, c'est le responsable de la commission de l'armement et des armées. Mais surtout, c'est lui qui organise toutes les journées nationales de prière au mois de février de chaque année. Les présidents américains, tout son gouvernement, les parlementaires viennent participer pour glorifier Dieu d'avoir fait des États-Unis la première puissance mondiale.
Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre les États-Unis et la RDC?
Il y a un pas de plus qui est fait. La première symbolique, c'est d'abord le fait que ce soit le premier pays, et c'est la première puissance mondiale, qui s'est exprimé clairement sur l'élection du chef de l'État, pendant que d'autres pays hésitaient encore.
Qu'est-ce qui change par rapport à ce qui était depuis quelques temps?
D'abord, l'acceptation même. Vous le savez, qu'il y a beaucoup de personnes du régime sortant qui sont sous sanctions américaines et qui ne peuvent pas venir ici, en dehors de tout ce qu'il y avait comme réunion protocolaire. Mais ce qui change, c'est aussi cette volonté des investisseurs américains de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Hier, le chef de l'État était devant la Chambre du commerce. En tout cas, cela est repris également dans un communiqué officiel du département pour dire que tout ce qui s'est fait, c'est pour le bien du peuple congolais.
Valéry Giscard Koussema, un des chargés de la communication du président congolais Félix Tshisekedi, en visite à Washington.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le processus électoral au Bénin se poursuit sans l'opposition. Hier, le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique a été effectué. C'était au siège de la commission électorale. L'opposition a appelé à une marche jeudi qui n'a été suivie vraiment que dans certaines localités du pays. Les organisations de la société fustigent la mise à l'écart de l'opposition, mais appellent les populations à ne pas céder à la violence. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
L'opposition béninoise écartée des législatives, les voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer cette première qui, selon les dires de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, reste une violation flagrante des droits de l'homme.
Je répète qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Toute autre option serait la négation pure et simple de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. C'est une pure folie.
L'Assemblée nationale a disposé de plus de 26 jours pour trouver une porte de sortie. Mais malheureusement, les débats n'ont pas prospéré. Pour Rosine Viera Soglo, la doyenne d'âge du Parlement, il n'y a de paix que si tous les citoyens d'un même pays sont traités équitablement. Les Béninois espéraient de la rencontre du chef de l'État avec les présidents des institutions de la République, un report des élections, mais ces derniers ont demandé la poursuite du processus électoral. Dans la rue, les avis sont divergents.
Le 6 mars passé, le président a vu que la situation est préoccupante et leur a dit de trouver un consensus. Maintenant, ils ont fait 26 jours de gâchis à l'Assemblée sans trouver aucun consensus.
Nous avons cru que les présidents des institutions, ils allaient venir à la rescousse. Mais malheureusement, pour le peuple béninois, ils sont même venus mettre encore de l'huile sur le feu. On est en train de constater, malheureusement, que le processus électoral est en train de dérailler.
Les élections n'auront pas lieu sans les opposants. Il faut marquer ça quelque part. Le peuple ne va pas permettre la nomination des députés.
L'opposition, mercredi, a appelé à des marches répétées jusqu'au 28 avril. Le premier jour de ces marches répétées n'aura pas connu le succès voulu, si ce n'est dans quelques villes du Bénin. Par le porte-parole, l'opposition estime avoir été écartée pour des partis politiques n'ayant aucune expérience.
Il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition, car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les deux partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie qui sont capables de prendre part aux consultations électorales, tandis que les partis d'opposition qui ont régulièrement pris part aux joutes électorales sont exclus de la compétition.
Deux partis figurent donc sur le bulletin unique présenté à la presse jeudi, l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux de la mouvance présidentielle. De Cotonou, Ginette Fleur Adandi pour VOA Afrique.
Retour sur la prestation de serment hier à N'Djamena au Tchad du président de la nouvelle CENI, Kody Mahamat, et des 30 membres de cette commission devant la Cour suprême. Les partis de l'opposition qui avaient menacé de geler leur participation au CNDP, le cadre national de dialogue politique, ont finalement laissé leurs représentants prêter serment. Des détails avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjinger.
Ces deux individus qui sont à la manœuvre de ce que vous appelez le gel de la participation de la composante opposition au CNDP.
Aladom Djarma Baltazar, rapporteur général du CNDP, cadre national de dialogue politique et porte-parole du Front pour le changement et l'alternance démocratique, un regroupement de l'opposition. Il fait allusion au chef de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, qui a signé un communiqué de presse demandant aux représentants de l'opposition qui siègent au CNDP de geler leur participation pour protester non seulement contre la désignation de Kody Mahamat comme président de la CENI, mais aussi pour réitérer l'annulation du décret 216 portant composition de 30 membres de la CENI, dont 15 de la majorité et 15 de l'opposition. Aladom Djarma Baltazar estime que cette stratégie est un film habituel de la vieille classe politique.
Il gèle donc une suspension. Je ne pense pas que les plus hautes autorités puissent continuer à laisser faire le jeu. Les gens, c'est parce qu'ils ont un carnet d'adresses qu'ils veulent s'imposer à tout le monde et ils pensent que le reste constitue leur bataillon, donc c'est des soldats qu'on doit instruire. La politique, ce n'est pas l'armée. S'ils veulent faire du carriérisme dans l'opposition, ils doivent comprendre que plusieurs loups comme eux guettent à la porte. Il y aura sûrement des carreaux qui vont être remplis.
Mahamat Ahmad Alabo, membre du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, qui accepte geler sa participation au CNDP dont il en est le vice-président, déplore le comportement de ses compagnons qui font le jeu du pouvoir.
Il y a un certain nombre de partis politiques représentés au CNDP qui, à tous les coups, prennent position avec la majorité. Ils se disent de l'opposition, mais ils sont beaucoup plus proches de la majorité. Donc nous prenons acte. Dans tous les cas, ce n'est pas la majorité qui désigne les représentants de l'opposition au CNDP. S'ils veulent faire la même chose comme ils l'ont fait à la CENI, là, c'est une violation absolue de la loi. On avisera.
Pour Jean-Bernard Padare, secrétaire national chargé des groupements sociaux professionnels du MPS parti au pouvoir, l'opposition fait de la gesticulation.
Ce n'est pas parce qu'un ou deux membres futiles, imminents de l'opposition réclament qu'on doit remettre en cause ce qui a été unanimement fait. Ça fait depuis longtemps que le président de la République avait annoncé qu'on ira aux élections législatives. Les gens sont en train de tergiverser pour qu'on n'y aille pas. Nous, nous sommes fin prêts et il y aura élection, qu'on le veuille ou non.
C'est sous ce climat de tension politique que les 31 membres de la CENI, y compris le président de cette institution, Kody Mahamat, récusé par une partie de l'opposition tchadienne, ont prêté serment ce jeudi 4 avril devant la Cour suprême. André Kotmadjinger, N'Djamena, VOA Afrique.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.